Écoutez Bangui FM. Écoutez Bangui FM.
C'est la radio que j'écoute toute la journée.
Écoutez la différence.
Bangui FM, c'est l'heure de l'invité du jour.
Maître Arlette Somodibele, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'avocate du député de la 2e circonscription du 3e arrondissement de Bangui, Abdou Karim Mikasoa. Alors, quelle est la nature de la requête que vous avez déposée à la Cour constitutionnelle pour le compte de Karim Mikasoa ?
Je vous remercie. Ce n'est pas une requête que j'ai déposée. C'est un mémoire en défense. Celui qui a déposé une requête à l'effet d'obtenir la destitution de l'honorable Abdou Karim Mikasoa, c'est plutôt son adversaire, l'ancien candidat évincé, M. Algoni. Donc, ce que je peux dire sur cette requête introduite et à laquelle nous avons répondu, c'est que si l'on parle de destitution, non seulement le terme est impropre, mais concernant un député, la demande est illégale. Parce que la destitution concerne exclusivement le président de l'Assemblée nationale selon l'article 110 de la Constitution du 30 mars 2016, et l'article 12 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle qui a été donc adoptée le 17 mars 2017. Donc de destitution, il n'y en a point en ce qui concerne un député de la nation.
Pourriez-vous nous revenir sur le contenu de la requête déposée auprès de la Cour constitutionnelle par l'adversaire politique du député Karim Mikasoa ?
La requête déposée avait abordé trois points fondamentaux. Ou du moins deux. Elle demandait la destitution et elle considérait que l'honorable Karim Abdou Mikasoa est inéligible de sa moralité qui serait douteuse. Sur la question de l'illégitimité, je reviendrai, il y a également ce qui a été invoqué concernant un rapport du groupe d'experts qui, donc, militerait dans le sens de cette moralité douteuse. Et donc, la demande se basait sur l'inéligibilité au motif de moralité douteuse et la preuve qui était faite de cette immoralité viendrait de ce qu'existe un avis de poursuite. Alors, nous revenons sur la question de l'inéligibilité. Il s'agit là d'un contentieux qui est dépassé. Donc, la Cour aura à examiner cela, qu'il y a forclusion en l'espèce. Parce que, selon l'article 92 du Code électoral, la saisine de la Cour dans un délai de 3 jours est prévue après publication de la liste provisoire des candidats par l'ANE. Cette saisine, elle est également prévue, toujours dans le Code électoral, son irrecevabilité est prévue lorsqu'il n'y a pas de requête formulée par écrit, motivée, avec des pièces et des moyens annexés. Ce qui veut dire que dans ce délai de 3 jours-là, la Cour constitutionnelle doit être saisie par une requête motivée, dans la forme écrite, avec des pièces et des moyens qui soutiennent la demande qui est faite d'inéligibilité. Mais cela n'a pas été fait dans le délai. C'est le contentieux qui ne relève plus du moment. Il y a forclusion, parce qu'on a bien dit que dès que la liste provisoire des candidats est publiée, chacun a la possibilité de contester la légitimité. Ce qui n'a pas été fait, je pense qu'il y a forclusion. Concernant maintenant la question du rapport du groupe d'experts, j'en reviendrai. Mais d'ores et déjà, il y a aussi le fait qu'on ait fait état d'un avis de poursuite. Un avis de fursite qui militerait pour que l'élection de mon client, l'honorable Mikasoa, soit invalidée. Je pense que cette question-là avait été examiné et rejeté par le tribunal administratif à l'occasion du procès d'un certain nombre de députés. Ça a commencé avec l'honorable Zingas, l'honorable Doleguele, et sur ce même avis figurait l'honorable Ziguele, l'honorable Mikasoa, dont on demandait la destitution. À l'époque où on faisait cette demande, ils avaient l'immunité parlementaire. Et on a transmis une demande de destitution. Le ministre de la Justice a transmis une demande de levée d'immunité avec, à l'appui de sa demande, ce document. Le tribunal administratif saisi à l'occasion d'une voie de fait qui était perpétrée à l'encontre de l'honorable Zingas qui devait partir en mission parlementaire à l'encontre de l'honorable Dolé Guélé qui devait partir pour des soins de santé, le tribunal administratif a rendu une décision où il était bien précisé que le parquet, le procureur de la République, invité à présenter ses pièces qui soutenaient donc cet avis, avis qui n'est pas une décision de justice revêtue de la forme exécutoire, qui devait être appuyée pour se rendre bien compte qu'il y avait du sérieux, le procureur de la République n'a pas pu produire de pièces probantes. Et mieux encore, cette question a été tranchée par la décision qui a été rendue, qui reconnaissait qu'il y avait une voie de fait qui était perpétrée à l'encontre de ces honorables députés sans qu'il y ait de motif valable et qui a levé l'interdiction de sortie du territoire. Donc, cette question-là a été réglée à cette occasion. Elle ne peut plus être invoquée ici, d'autant plus que nous nous retrouvons avec un député revêtu de son immunité parlementaire. Il y aurait ici une procédure peut-être à reprendre dans les conditions prévues par la loi. Voilà pour l'avis de poursuite qui n'est nullement un mandat d'arrêt ni une décision de justice ayant revêtu l'autorité de la chose jugée. Concernant maintenant le rapport du groupe d'experts qui est invoqué pour dire que Monsieur l'honorable député de la nation Mekassoua ne peut composer l'Assemblée nationale du fait qu'il aurait une moralité douteuse et du fait que le rapport de groupe d'experts a mis en état la possibilité qu'il soit l'instigateur de la CPC, qu'il soit dans un groupe armé sans que des précisions aient été données. Cette pièce a été versée. Mais je veux vous dire une chose, c'est que le rapport du groupe d'experts n'est pas un texte prévu sur lequel la Cour constitutionnelle pourrait rendre une décision.
Justement, mais en parlant de cela, peut-on parler d'un acharnement contre votre client ?
Écoutez, je ne me place pas sur ce terrain-là. Je parle d'un candidat malheureux qui a été battu à la loyale et qui voudrait revenir sur la décision entérinée par la Cour constitutionnelle, la décision du peuple, et vaincre son péril. Il faudrait qu'on puisse évincer monsieur l'honorable député Mekassoua pour qu'il puisse s'installer tout simplement par un jeu de redressement. Non, je dis plutôt qu'il y a deux poids, deux mesures. Ce rapport-là a été rejeté catégoriquement par les autorités. Je vous donne un exemple. Vous avez le ministre d'État, qui est le directeur de cabinet de la présidence, du président de la République, qui en a parlé comme d'un rapport tronqué, mensonger, diffamatoire, élaboré sur la base de rumeurs. Et le but de ce rapport n'était que d'atteindre au moral des troupes qui se battent pour la libération du peuple centrafricain. Vous avez le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a dit que les auteurs de cette enquête ne se sont jamais rendus sur le terrain, que l'objectif de ce rapport vise à entraîner des sanctions contre la République centrafricaine, tant sur le plan politique, militaire que financier. Vous avez le ministre de la Défense qui, en date du 29 juin 2021, a dit qu'il ne fait pas de doute que cette publication calomnieuse, fondée sur des preuves fabriquées et non vérifiées, est une stratégie qui vise d'abord à saper le moral des troupes, encore une fois, mais aussi à amener les Nations Unies à prendre des sanctions contre les alliés russes. Ça, c'est ce que le pouvoir en place lui-même dit. Le ministre d'État à la Justice a surenchéri de plus belle à Genève le 9 juillet 2021. Sur ce rapport, il dira que c'est une mauvaise publicité car ce rapport est basé sur des faux chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et je finis avec la réaction du ministre délégué porte-parole de la présidence qui a déploré que le rapport rédigé par l'ONU ait été transmis aux médias, que ce document a été utilisé dans la guerre d'information malheureuse contre la République centrafricaine. Donc ce rapport qui est rejeté par les autorités de la place, il peut difficilement être pris par une juridiction la plus haute et qui a le rôle de réguler toutes les institutions. Et si par impossible, ce rapport devait être pris en compte, alors nous dirions qu'il devrait conduire la Cour à examiner les exactions imputées aux instructeurs russes, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, qui sont imputables à la garde présidentielle et aux milices dénommées requins. Mais en l'occurrence, ce rapport, pour nous, n'est pas un texte juridique dans le sens où il est donné compétence à la Cour constitutionnelle de connaître de la constitutionnalité d'un certain type de texte. C'est Monsieur le requérant Algoni qui a saisi la Cour, qui lui-même fonde sa saisine sur la compétence de la Cour à connaître, selon l'article 2 de la loi organique de la Cour constitutionnelle à connaître des lois, des ordonnances, des règlements et assurer la régulation du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics. La Cour constitutionnelle a également compétence pour juger de la constitutionnalité des lois organiques, des lois ordinaires promulguées ou en instance de promulgation, ou celles qui ont été simplement votées, donc en instance de promulgation, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous voyez, j'ai cité exprès pour que vous voyez bien que dans tous ces documents-là ne figure pas un rapport d'enquête qui n'est ni une loi, ni une ordonnance, et encore moins un règlement ou un instrument international. J'en reviens à ce que vous disiez. Oui, cela semble être de l'acharnement. Parce que lorsque l'on ne trouve pas d'argument et que l'on n'hésite pas à tordre le cou au droit, lorsque l'article 19 de la loi organique de la Cour constitutionnelle vous dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont susceptibles